Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année, qu'elle vous apporte beaucoup de réussite et beaucoup de joie. Et on va essayer, nous, de vous régaler sur l'actu des plateformes de streaming, comme vous en avez l'habitude maintenant, sur l'actu des séries aussi. Il y aura beaucoup d'actu cette année, il y aura beaucoup de séries. J'ai déjà un peu fait mon petit programme. Vous allez voir, on va beaucoup parler de toutes les plateformes, Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, les plateformes françaises, France TV, Arte, et celle du jour, c'est TF1 qui vient de se lancer. C'est notre grosse actu d'aujourd'hui, et pour ça, j'ai deux invités pour en parler en plateau. D'abord, Rebecca Blanc-Lelouch. Salut Rebecca.
Salut Clément.
Rebecca, journaliste à BFM Business, spécialiste du secteur des médias, de la communication notamment, présentatrice d'Hebdocom sur BFM Business. Hebdocom le vendredi à 14h, hein, c'est ça?
Absolument. Et en replay, en podcast,
sur le site partout. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Merci beaucoup d'être là. En face de toi, il y a Thibaut Gomez-Léal, un habitué. Hein. Salut Thibaut.
Salut Clément.
Chef de service cinéma et streaming du site des Numériques. Voilà, troisième passage dans l'émission.
Et toujours un plaisir.
Le premier de cette année, il y en aura encore d'autres, je l'espère. Merci à tous les deux d'être là. On va donc attaquer notre débat de la semaine. Je le disais donc, TF1 lance son offensive dans le streaming. Oubliez l'échec quand même assez cuisant, mais pas que pour TF1, pour tout le monde, de Salto. Le groupe de privé, le premier groupe d'Europe, a lancé le 8 janvier TF1+, sa nouvelle plateforme qui doit remplacer MyTF1 à terme. Alors MyTF1 existe encore, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Plateforme gratuite, hein, TF1+, qui regroupe tous les contenus proposés par TF1. Contenus actuels, mais aussi des contenus plus anciens qui reviennent, qu'on va pouvoir revoir. Alors quand on dit contenu, on parle de films, on parle de séries, on parle d'émissions, on parle d'infos aussi, hein, forcément, avec TF1. L'objectif, bah, c'est de chambouler un peu ce marché du streaming français, aller chercher France TV, Arte, tout ça, qui ont déjà des belles plateformes. TF1, c'est une force de frappe, évidemment, bien supérieure à certains médias comme Arte, par exemple. Mais il y a la concurrence avec France TV qui est réelle. Et puis derrière, forcément, on pense forcément aux géants américains, Netflix, Prime Video, tout ça. Est-ce que TF1 peut titiller ces géants? Rebecca, est-ce qu'il y a de l'ambition dans ce lancement de TF1 Plus? Qu'est-ce que cherche le groupe?
Alors, ambition, c'est clairement le mot, hein, et c'est l'impression que TF1 a voulu donner en cette rentrée, et ça a marché. Hein. Il y a quand même beaucoup de marketing, beaucoup de travail de communication qui se tâche
On en derrière. A vu partout des pubs, hein, pour
On
le lancement.
On en a vu partout du TF1, du TF1 Plus. Le gros changement, c'est le changement de nom. Hein. On passe de MyTF1 à TF1+. C'est quand même un marqueur fort dans l'ambition et dans le changement de communication. Là, TF1+ positionne vraiment comme un service de streaming, hein, alors que MyTF1, c'était plus un service de rattrapage. Mmh. C'est la grosse différence pour moi. C'est surtout un changement de philosophie aussi. Avant, TF1 attendait la diffusion des programmes en linéaire pour ensuite les rendre disponibles sur sa plateforme en replay, mais voulait d'une certaine façon, en fait, protéger ses programmes. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est on est dispo partout, on veut que notre audience s'élargisse, on veut se moderniser, on veut se positionner sur le digital. Et l'autre différence notable, c'est que TF1 Plus proposera des contenus plus longtemps et de façon enrichie. Mais j'imagine qu'on va y revenir.
Ça fait partie effectivement des spécificités. On Absolument. L'a dit, il y a MyTF1 qui était là, qui existe encore en parallèle. C'est quoi la différence réelle, hormis effectivement cette histoire de délinéariser les programmes? Est-ce qu'il y a autre chose entre ce TF1 Plus et ce MyTF1?
Ben non, mais Rebecca l'a effectivement très bien dit. Tu l'as dit, c'est un changement de philosophie et il y a quand même un réglage qui est intéressant et qui est dans le sens de ce que Rebecca a dit. C'est-à-dire effectivement qu'avant, les programmes étaient disponibles 7 jours et maintenant, cette fenêtre va s'ouvrir et va s'accorder avec les autres acteurs du marché, c'est-à-dire effectivement Arte, Canal, etc. etc. C'est-à-dire que l'on va passer de 30 à 48 mois. Donc du coup, ça va ouvrir véritablement. Alors, ce n'est pas la chronologie des médias, mais ça va ouvrir vraiment les programmes de TF1 à d'autres usages, et notamment à ces usages du streaming, qui est le territoire que veut conquérir TF1+.
Oui, l'idée c'est aussi de changer le réflexe. Avant, on y allait parce qu'on avait peut-être raté l'émission qu'on aime bien ou la série qu'on aime bien. Tiens, on va rattraper l'épisode de la semaine. Là, c'est l'idée de prendre du marché, d'y aller, d'avoir ce réflexe TF1+, de dire tiens, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Bah, avant, on se disait bah, tiens, on va aller sur Netflix, on va aller sur tel truc. Là, on va peut-être aller sur TF1+ en se disant bah, tiens, peut-être un bon film sur TF1+, et pas juste le film qu'on aurait raté la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous donne un chiffre quand même. 15 000 heures de programme. C'est ce que promet TF1 Plus pour son lancement. Alors, pour vous donner une idée, c'est les chiffres qui ont été donnés par Rodolphe Belmer. Hein. C'est à peu près l'équivalent de la profondeur de catalogue de Disney Plus et de Prime Video, donc quand même deux acteurs assez majeurs. C'est beaucoup moins que Netflix, mais Netflix, on le sait, a tendance à surgonfler son catalogue avec un peu tout et n'importe quoi. Netflix, c'est 40 000 heures, donc à peu près trois fois plus, un peu moins de trois fois plus. Thibaut, quand on regarde ce catalogue, c'est quoi les atouts de TF1 Plus en termes de vraiment de contenu?
Alors, on va parler un petit peu hors antenne. Quels sont les atouts de TF1 Plus? Effectivement, il y a Plus belle la vie qui passe de France Télévisions à TF1 Plus, qui est quand même une série emblématique des années 2000-2010, qui du coup change de maison. Ça, c'est quand même un, ouais. Et en plus, qui fait un démarrage canon là, puisqu'elle a débuté lundi.
Donc, TF1 qui a renommé légèrement le contenu, voilà. Plus belle la vie. Encore plus belle.
Encore plus belle, voilà cette petite sous-titrage.
On retrouve les personnages, une partie des personnages, effectivement, une partie des décors aussi.
Exactement, mais après la force de TF1 Plus, on va dire, c'est la marque TF1 et c'est les émissions TF1. C'est-à-dire que c'est 20 ans de Koh-Lanta, 20 ans de Star Academy, 20 ans de The Voice, etc. etc. Donc c'est cette marque et ce patrimoine, on va dire, télévisuel assez important. Après, en termes de streaming pur, c'est-à-dire en termes d'addition de catalogue, de films, de téléfilms, de séries, pour ce démarrage-là, TF1 Plus, je dois avouer que je ne vois pas encore la plus-value parce que les films proposés, soit ils sont sur d'autres plateformes, soit ils sont pas forcément extrêmement excitant. Idem pour les séries. Il y a beaucoup de séries qui datent des années 80, 90, 2000, 2010, donc des séries qui sont un petit peu régressives, oui. Ce qui est très bien, qui va, on va dire, dans le sens de TF1+, ce qu'on a déjà vu, mais en termes de nouveautés, c'est assez pauvre. Donc pour l'instant, on va dire, les plus-values, on va dire, c'est plus sur le point fort, c'est peut-être plus sur effectivement cette identité TF1. Et on va dire peut-être les productions maison et les émissions, mais j'attends de voir, je suis assez curieux.
Oui, on en parlait un petit peu, il y a une série qui effectivement... Et pour les amateurs, pour les sériephiles, qui est celle qui peut faire, en tout cas, les attirer vers TF1+, c'est Poker Face, qui est une série qui a déjà un an, qui est sortie sur Peacock aux États-Unis, qui n'a pas trouvé de diffuseur en France.
Produite par Ryan Johnson.
Produite par Ryan Johnson, donc Onion Glass, etc., à couteau tiré, donc qui a des films sur Netflix qui ont eu un beau succès. Est-ce que ça peut suffire? C'est quand même une série un peu confidentielle.
C'est un peu léger.
On va dire.
C'est un peu léger. Et puis ça
ne
correspond pas vraiment à l'identité de TF1. Et surtout pas, on va dire, l'identité des gens qui regardent TF1 et qui pourraient regarder TF1+. Donc on va dire que TF1+ se lance et encore un petit peu peut-être dans une quête d'identité par rapport à ce territoire du streaming. Ils ont pris comme ça 200 films, 200 séries un peu pêle-mêle entre les gros titres et le régressif. Mais ils se cherchent encore un peu. On fera peut-être un point dans un an et on en saura plus à ce niveau-là.
Pour l'instant, Rebecca, la force de TF1+, c'est TF1 en fait.
Pour moi, c'est ça. C'est les programmes historiques de TF1, c'est les programmes de Flux, La Starac, Koh-Lanta, quelques fictions, hein, HPI, Panda, Succès Maison. Mais en effet, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que Thibaut a dit. On verra sur la suite. Il y a aussi quelques acquisitions étrangères, des séries d'animation. Pourquoi pas? Mais pour moi, la vraie plus-value de TF1, c'est en effet les programmes de Flux historiques.
Effectivement. Alors, il y a une petite innovation technologique dont je voulais qu'on parle quand même, puisque alors, c'est ce que nous promet aussi TF1+, de pas être une plateforme de streaming comme toutes les autres. Alors, cette petite innovation, elle s'appelle Synchro. C'est un algorithme de recommandation. On sait tous à quel point il est difficile, parfois, le soir sur son canapé, quand on ne sait pas quoi regarder, eh bien, on ouvre une plateforme et en général, une demi-heure après, on ne sait toujours pas quoi regarder. Parce que soit on a déjà vu, soit on ne sait pas trop ce que nous propose la plateforme. Eh bien, Synchro, c'est un algorithme de recommandation qui permet de trouver le bon programme quand on est plusieurs devant la télé. Donc, soit on est avec des amis, soit on est avec juste ses enfants, soit avec son compagnon, sa compagne. On indique qui est là et TF1+, pouf, sort de son chapeau une liste de programmes qui pourraient plaire aux utilisateurs. Est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est une bonne idée, cet algorithme?
Pour moi, ça reste un gadget.
Ouais.
Les algorithmes qui sont déjà présents sur les plateformes font très bien leur travail. On a quand même des suggestions qui sont très personnalisées initialement. Donc, si je dis à ma plateforme, est-ce que je suis avec mon conjoint ou ma petite sœur, ça va changer grand-chose? Je ne suis pas certaine. Pour moi, c'est un petit gadget, mais à voir, évidemment.
Et puis, ce genre de gadget-là, on l'a déjà vu sur Prime Video, qui avait sorti son gadget X-Ray, qui permettait en plein programme de savoir qui était à l'écran, quelle musique passait, etc. etc. Qui utilise X-Ray? Personne ou quasiment personne. Donc à voir
à
comment
on fait pause pour voilà pour aller chercher du popcorn à la toilette, on se rend compte ah tiens
il y a X-Ray, ah bah tiens c'est quoi, ou c'est compliqué, ou ça m'intéresse pas, ou voilà. Donc à voir effectivement, mais après rien n'est perdu dans cette guerre du streaming. Il y a toujours un petit truc à avancer, donc c'est ah regardez, nous on a ça en plus, et donc c'est une manière pour TF1 plus de dire regardez, on a quelque chose en plus que le concurrent n'a pas.
Et puis l'intention est bonne, parce que c'est vrai que on a toujours cette éternelle problématique critique. Oh, il y a tellement de choses, on ne sait pas quoi regarder. Donc c'est assez bon enfant quand même.
C'est peut-être un bon guide. On va voir un peu comment ça fonctionne au fil du temps. Et quand, surtout quand on aura regardé beaucoup de choses sur cette plateforme, puisqu'au début, effectivement, on n'a pas vu grand-chose. Et puis après, l'algorithme devient un peu plus complexe. L'un des marqueurs forts, forcément, quand on dit TF1, certes, on pense à Koh-Lanta, on pense aussi forcément au JT, JT de 20h, JT de 13h. Et la nouvelle venue, bonjour, la nouvelle matinale de TF1 qui vient de se lancer, qui est un des deux produits avec Plus belle la vie de lancement, on va dire, de TF1+. Est-ce que le fait qu'il y ait cette offre d'infos avec par ailleurs des contenus adaptés au streaming, est-ce que ça peut, peut-être Rebecca, donner un coup de boost à cette plateforme? Est-ce que les gens peuvent aller chercher de l'info en streaming?
Moi, je ne suis pas certaine. Pour moi, la consommation de l'information, c'est quand même du contenu chaud. Ça ne se regarde pas en streaming, ça ne se regarde pas de la même façon que de la fiction ou du contenu habituel en streaming. En revanche, en effet, le lancement de Bonjour, ça rentre dans ce coup d'envoi, ce coup de rentrée de TF1, cet ensemble de communication de TF1, et ça va... rajouter de la plus-value. Et évidemment qu'il ne faut pas que TF1 Plus se passe de Bonjour. Et j'ai vu aussi ce matin, regardant, que Bonjour était découpé, séquencé,
et
tout de suite.
Très, très découpé même. Il y a beaucoup, beaucoup d'extraits, effectivement.
Beaucoup d'extraits, tout de suite, dans la foulée de la diffusion. Et ça, pour le coup, je trouve ça quand même pas mal.
Parce qu'effectivement, autant on n'ira peut-être pas chercher deux heures d'émission en streaming quatre jours après, autant peut-être qu'une chronique, qu'une interview... Ça peut avoir un intérêt à se rattraper le week-end si on a raté un truc, quoi.
Moi, j'aimerais nuancer ce que tu dis, Rebecca, effectivement. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté, effectivement, il y a les usages, notamment sur l'actu, qui sont très, très bien ancrés. Donc, ça va être compliqué de les bouger. Il y a un élément qui est intéressant avec TF1+, et avec l'AVOD, parce que, on ne l'a pas dit, c'est une plateforme d'AVOD, donc financée, donc gratuite, financée par la publicité, donc en pré-roll et en mid-roll. Et qui est un territoire, la vote, qui reste encore effectivement à aller conquérir par plein de plateformes. Arte, d'autres plateformes le font. Et TF1 Plus veut aller chercher ce territoire de la vote et aussi le territoire de la Fast TV, c'est-à-dire ces télé connectées dans lesquelles on a une myriade de services gratuits de streaming. Et du coup, avoir TF1 Plus à moyen terme sur des milliers de télé connectées, ça permettra d'aller chercher les 35% de Français qui ne sont abonnés à aucune plateforme de streaming, et du coup peut-être aller chercher comme ça cette tranche de la population française qui échappe encore, on va dire, à ce flux du streaming et qui est peut-être corrélé aussi, qui est lié à la tranche TF1.
Des gens chez qui, en tout cas, la marque TF1 leur parlera forcément, vu sa puissance.
Et du coup,
tu l'as évoqué justement, ça fait une bonne transition, le prix de cette plateforme, puisque quand on dit plateforme de streaming, forcément, faut parler prix. TF1, c'est gratuit. TF1+, ça reste gratuit. En tout cas, ça, c'est la promesse de base. Évidemment, on peut y aller gratuitement. Il y a besoin de se créer un profil, évidemment, comme sur toutes les plateformes. La contrepartie, les pubs. Ça ne change pas. Publicité avant, pendant. Alors, ça dépend de la durée. Si votre programme est court, forcément, vous n'aurez pas de pub au milieu ou avant. Publicité ciblée, ça, c'est intéressant en termes de modèle économique, puisque c'est la différence par rapport à une plateforme classique. Là, une plateforme de streaming, les pubs vont être hyper ciblées. Et ça, pour TF1, c'est, Rebecca, je me dis que c'est hyper important en termes de marché.
C'est très important de se positionner. En tout cas, après, la pub vidéo, c'est encore complexe à comprendre. Ouais. On est au début. On dit en effet que la pub adressée, le coût pour 1000, est au-dessus que sur la télé linéaire. En revanche, on touche moins de personnes. Enfin, voilà. Il faut encore voir les évolutions. En revanche, je ne pense pas que TF1 compte sur ce modèle d'abonnement payant.
Oui, parce que du coup, c'est ça. Pour ceux qui n'aiment vraiment pas la pub, il y a quand même possibilité de s'abonner. Combien ? 5,99€ par mois. Je me suis noté ça. Pourquoi ? Ça sert à quelque chose ?
Moi, j'y crois moyen. C'était peut-être évident pour eux de le proposer, en contrepartie de la publicité, en effet. Mais j'y crois moyen, d'autant plus que les contenus TF1+, sont quand même loin d'être à la hauteur des contenus Netflix. Donc, ça m'étonnerait quand même que les gens... paye pour simplement skipper la pub, d'autant plus qu'on voit que les modèles, les offres de Netflix d'abonnement avec pub moins chère, avec publicité, fonctionnent très très bien.
Oui, effectivement, c'est peut-être, tu disais, se sont sentis obligés de le lancer. Toutes les plateformes aujourd'hui en ont, même les plateformes américaines ont ces modèles, soit, alors pas gratuit, mais en tout cas beaucoup moins cher avec pub, un peu plus cher sans pub.
Est-ce que c'est le même modèle que Prime Video? C'est-à-dire que Prime Video, effectivement, ils ont la bonne idée, là, le 29 janvier aux États-Unis, puis en avril en France, de lancer, on va dire, une offre, effectivement, il y a de la pub qui arrive sur Prime Video, et si vous ne voulez pas de publicité, vous payez 3 euros de plus. Donc c'est-à-dire qu'ils ne scindent pas leur base d'abonnés, mais c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas de pub, hop, ils payent en plus. Et TF1 TF1 Plus a le même, un petit peu le même fonctionnement. Alors oui, il n'y a pas de publicité, ils peuvent avoir des programmes un petit peu en avance, quelques-uns comme ça, mais c'est vrai que la plus-value n'est pas...
Il faudra
pas extraordinaire, mais j'imagine que ça leur coûte pas tellement plus cher de faire ça et ça peut leur rapporter, oui, on va dire, quelque chose. Mais je pense qu'ils misent beaucoup plus sur la publicité, par exemple.
Effectivement, avec un enjeu quand même, c'est-à-dire que certes, on parle d'argent, etc. Il y a un enjeu d'audience fort, un enjeu de marque pour TF1, garder le leadership quand même sur l'audiovisuel en France. France Télévisions, on le sait, a des audiences qui progressent, qui sont en bonne voie. C'est aussi pour ça que TF1 Plus réagit, obligé de lancer sa propre plateforme. D'autant plus que sur le streaming, France TV, mais aussi Arte, je pense aux deux, ont des plateformes gratuites lancées depuis un moment avec des séries exclusives. Je pense par exemple à ce que fait France TV avec Parlement, avec France TV Slash, etc., qui est une offre qu'on ne voit pas en linéaire à la télé, mais qui est très reconnue aujourd'hui, qui est primée dans des festivals, etc., qui a donné à France TV un cachet. Arte, bon, on le connaît pour leur série originale depuis très longtemps, qui sont disponibles en amont sur la plateforme, en intégralité, et après diffusées en linéaire sur la chaîne. Comment est-ce que TF1 peut s'insérer là-dedans? Est-ce que c'est une vraie concurrence frontale? Est-ce qu'ils y vont en se disant, on reprend ce qu'on a peut-être perdu sur le streaming? Rebecca, est-ce qu'il y a un enjeu pour TF1 vraiment de concurrence là-dessus, ou est-ce que de toute façon ils vont manger tout le monde?
Pour moi, oui, parce que les plateformes France.tv et Arte sont très très bien, l'ergonomie est très bien, et avec cette refonte, TF1 Plus se positionne, comme je disais tout à l'heure, vraiment comme un service de streaming à part entière. Ils ont tout intérêt à le faire, évidemment, et puis ce sera une application qui sera dispo sur toutes les box, sur toutes les téléconnectées, par défaut sur les téléconnectées, les Samsung TV par exemple, et les magasins d'applications. C'est le cas de Netflix, ça veut se positionner un peu comme Netflix, un modèle qui fonctionne. Et TF1 a quand même réussi à obtenir un bouton sur les télés des marques Hisense, tout comme Netflix, chose que France.tv et Arte n'ont pas du tout.
Oui, et ça peut effectivement, quand on a envie d'aller à la facilité, le gros bouton au milieu de la télécommande, il est toujours un peu attirant. On le disait un peu, il y a de l'ambition quand même, hein, c'est-à-dire que malgré, au-delà de la concurrence franco-française, il y a une ambition vraie et réelle de TF1 sur ce marché du streaming français. Part de marché à deux chiffres d'ici 3 ans, voilà ce que disait Rodolphe Belmer au lancement. Est-ce que vraiment il y a le potentiel chez TF1 Plus pour aller chercher Netflix, Prime Video? Netflix, ça va être très compliqué, mais déjà peut-être Prime Video, Disney Plus, est-ce que c'est envisageable sur 3 ans?
Alors, selon moi, pas du tout. Ça, ouais. Pour moi, je pense que la stratégie de TF1 doit se faire en plusieurs temps. On se souvient de l'échec de Salto, on se souvient de l'échec de la fusion avec M6, ça peut aller très très vite. Il y a un an, ils étaient dans une position complètement différente qu'aujourd'hui. Là, TF1 Plus se lance, on en a parlé, il y a plein de choses à mettre en place, il y a un public à aller chercher, etc. etc., etc. Netflix, Prime Video, Disney Plus, ils sont sur des logiques qui sont internationales et dans des dimensions inatteignables pour TF1. On parle de centaines de millions d'utilisateurs. Donc je pense qu'ils vont déjà se concentrer à aller chercher leurs acteurs, on va dire, nationaux, Arte, France Télé, avant d'espérer peut-être, même Canal+, est hors de portée, même s'ils ne sont pas sur le même modèle, hein, AVOD, oui, SVOD, même Canal+, pour TF1+, Canal+, a tellement d'avance à ce niveau-là, que MyCanal a tellement d'avance que TF1+, c'est déjà pas même sur le même pied. Donc Netflix, Prime Video, Disney+, c'est peut-être pour bien plus tard.
En tout cas,
TF1 Plus qui n'est pas, pardon, ça m'y fait penser, mais qui n'est même pas dispo sur MyCanal encore.
Oui, ça va être un deal à négocier. Oui, on sait à chaque fois qu'il faut négocier avec Canal pour se trouver en bonne place. On souhaite en tout cas avoir la bienvenue quand même à ce nouvel acteur TF1 Plus. On a hâte de voir ce que la plateforme va nous proposer dans les prochains mois, les prochaines années. On verra si les ambitions du groupe se concrétisent. Si vous voulez creuser un peu plus ce lancement, on va en reparler avec toi, Rebecca. Ce sera dans HebdoCom vendredi à 14h, avec notamment un focus, je crois, sur Bonjour, l'offre.
Absolument.
De lancement de
sur d'info. Le lancement de la matinale, dans cette guerre des matinales qui s'installe en cette rentrée.
Vendredi 14h sur BFM Business, ne ratez pas HebdoCom. Et nous, eh ben, on va passer au reco de la semaine. Première série qu'on vous recommande de regarder cette semaine, c'est la saison 4 de True Detective. Ça s'appelle Night Country. Alors, True Detective, série, on va dire, un peu culte quand même. Hein. Grande série, en tout cas, des années 2010, qui revient 5 ans après la dernière saison. C'est vrai qu'on avait un peu oublié cette série. 2019, c'était la saison 3 qui était passée complètement inaperçue. Saison 4 sort. Thibaut, c'est donc une série HBO qui arrive sur Prime Video via le pass Warner. Que vaut ce retour de True Detective ?
Eh bien, bonne nouvelle, c'est un très bon cru. C'est même la meilleure saison de True Detective depuis...
Mieux que la première ?
La première, depuis la première. C'est pas la première. Mais effectivement, tu l'as dit, True Detective, série culte, série policière, créée en 2014 par Nick Pizzolatto, qui avait un peu rebattu les cartes du genre dans sa gestion maligne, on va dire, des genres, à la fois policier, à la fois un peu mystique, à la fois un peu surnaturel. Voilà, il y avait ce trouble-là un peu fascinant, un peu excitant qui amenait les spectateurs sur la série. La saison 2, la saison 3 avait peut-être moins bien géré cet assemblage un peu délicat et avait comme ça un peu étiolé, on va dire, la réputation de la série. Night Country revient un petit peu aux origines, revient un petit peu aux sources. Nick Pizzolatto est toujours le producteur, mais cette fois-ci, la série est écrite et réalisée par Isa Lopez, qui est une réalisatrice mexicaine peu connue dans mon contrée, mais qui va faire grand bruit, je pense, dans les prochaines années. Et la série vaut surtout le détour aussi parce que c'est son cadre atypique. On se retrouve en Alaska pendant la nuit polaire et donc on est comme ça dans cette série de meurtres énigmatiques au milieu de l'Alaska, dans cette région hostile, dans cette communauté bourrée de secrets, bourrée de traumatismes. Et ça fonctionne surtout parce que c'est finement écrit, surtout parce que ces personnages sont extrêmement denses, extrêmement complexes, et que justement cet assemblage entre polar, surnaturel et aussi un petit peu horreur, là on le voit sur les images, on titille un petit peu l'horreur et l'horrifique, donc c'est très très bien, et ben ça fonctionne, et je conseillerais effectivement de savourer ces épisodes de manière hebdomadaire, parce qu'effectivement le format binge peut-être un peu moins bien marcher sur tous les détectives, mais Night Country est une très belle série pour commencer 2024.
Avec donc Jodie Foster en tête d'affiche.
Tout à fait, le duo de détectives Jodie Foster et Cali Reiss, qui sont du coup un duo comme ça de détectives de deux générations différentes, de deux cultures différentes, de deux mêmes états d'esprit différents, qui vont effectivement un peu s'écharper, mais vont devoir travailler ensemble. Ça fonctionne très très bien, c'est finement écrit et c'est l'une des grandes séries de ce début d'année 2024.
On ne peut pas s'empêcher de penser que ça s'inscrit aussi dans ce genre des séries policières polaires, entre guillemets. Alors Fargo, quelque part, est un peu la source d'inspiration de tout ça, qui était un peu humoristique, Fargo, mais qui en a inspiré beaucoup. Il y a eu la série Fargo qui s'est inscrite là-dedans, Polar Park récemment sur Arte, qui joue sur cette ambiance de neige où effectivement un peu tout est enseveli et les gens sont un peu engourdis et beaucoup de secrets cachés sous la neige. Donc
exactement, tout à fait.
Sanglant. Dans la saison 4 de True Detective, donc sous-titré Night Country, c'est la première fois qu'il y a un sous-titre dans cette série. C'est donc à voir 6 épisodes, il me semble.
Plus 7.
C'est donc à voir à partir du 15 janvier.
Lundi, ouais.
Lundi, sur Prime Video via donc le pass Warner. Faut toujours payer un petit peu plus pour voir les séries HBO. En attendant, peut-être combien de temps elle va y rester, parce que c'est vrai qu'il y a le lancement de Max cette année. HBO va récupérer quelques séries. Est-ce que ce sera le cas? On imagine quand même qu'il y a un petit deal qui a été passé pour qu'elle soit visible au moins peut-être une année sur Prime Video. Donc à voir. Deuxième conseil de la semaine, c'est le tien, Rebecca. Tu nous conseilles une série peu connu, moi j'avoue que je n'avais pas entendu parler quand tu me l'as présenté, mais que tu as toi particulièrement aimé. C'est une petite pépite sur Disney+, ça s'appelle Thérapie Alternative.
Absolument, et tu n'es pas le seul à me dire que tu n'en avais jamais entendu parler. À chaque fois que je parle de cette série, on me répond la même chose. Ça s'appelle Thérapie Alternative, c'est une série argentine, assez originale. C'est l'histoire d'une psy un peu excentrique, une psy de couple. Ça démarre, on voit qu'elle reçoit des couples, ça va pas, ça va bien, pourquoi ça va bien, est-ce qu'elle a réussi à réunir le couple et un jour, elle tombe sur un couple un peu particulier, avec une demande un peu particulière. C'est une sorte de gros challenge qu'elle accepte. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure des séances, donc de la série, il faut qu'elle s'immisce un peu plus qu'il ne faudrait normalement dans la vie du couple. Et elle a des pratiques un peu orthodoxes, disons.
Donc c'est une série qui est plutôt drôle, quoi.
C'est une comédie dramatique.
Ouais.
Y a quand même des scènes assez loufoques, mais on passe d'une réalité où on sent que le réalisateur a vraiment palpé les codes de la société d'aujourd'hui, les problématiques de l'amour, du couple, de la fidélité sur le long terme. Et en même temps, en effet, de la comédie, dialogue très bien écrit. Et puis voilà, on peut s'identifier plus ou moins dans certains couples.
Avec cette anecdote que tu me racontais tout à l'heure, à savoir que les deux acteurs qui jouent le couple
étaient en couple avant, pendant le tournage, et se sont séparés pendant la promo de la série.
Et bah, comme quoi, cette psy n'a peut-être pas fait.
Ça exactement. Donne pas envie de voir la série, ça. Ouais,
ça
je
donne
sais
pas
envie
chez cette psy, surtout visiblement.
Je vais pas vous spoiler.
Ça nous donne une.
Ouais. Mais ça veut dire qu'elle a bien fait son travail.
Ah. Bon, très bien. Et bah, écoute, c'est donc à voir sur Disney+. Ça s'appelle Thérapie alternative, série argentine. En plus, voilà, ça nous change un petit peu. 8 épisodes à voir sur Disney+. Donc, d'un côté, je rappelle la saison 4 de Trou Détective. La saison unique de Thérapie alternative. Par ailleurs, le genre des séries autour des psys, un vrai truc commence à se monter en thérapie, évidemment.
En thérapie,
on a beaucoup parlé en France. Shrinking sur Apple TV+, qui, je crois, a été renouvelé pour une deuxième saison, qui devrait arriver cette année, d'ailleurs. C'est une série très sympathique aussi, Shrinking. Moi, j'avais beaucoup aimé. Pareil, un peu sur des psys qui sont un peu... peu conventionnels, qui ont des méthodes qui marchent bien en série. Je suis pas sûr que ces méthodes de psy un peu étonnantes marchent en vrai. Mais en tout cas, ça fait des bonnes séries. On aime bien ces séries-là. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Thibaut, pour votre analyse de TF1+, qui se lance donc en ce moment en France. Et pour vos recos de séries, on sait déjà avec quoi commencer l'année. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux donc d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis pour cette première de l'année. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour décrypter encore un peu plus l'actu des plateformes de streaming. Petit indice, on va parler latex, on va parler cap, on va parler masque, on va parler super-héros. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça la semaine prochaine. Ce sera évidemment sur Tech & Co. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la revoir en replay sur notre site, sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, partout. Sur notre site, évidemment, ça fait plus de trafic pour nous. À la semaine prochaine, j'étais ravi de vous revoir.